Donc tu es journaliste à Canal+. Quand on travaille dans un tel groupe audiovisuel, comment s'organise la semaine en général?
Alors, ma semaine, moi, c'est un peu particulier parce que je suis au service reportage. C'est-à-dire qu'on fournit toutes les émissions de sport donc en reportage. Donc, ça veut dire qu'on doit aller sur le terrain toutes les semaines. Et donc, nous, on a un planning qui s'adapte vraiment aux besoins de l'actualité et aux besoins des émissions. Et du coup, moi, en général, le lundi, on a une réunion. Et c'est à partir de cette réunion-là qu'on sait un peu ce qu'on va faire dans la semaine. Donc, du coup, il y a pas mal de suspense sur notre avenir, sur le moyen terme, on va dire. Là, par exemple, dans 2 semaines, je sais pas trop ce que je vais faire, tu vois. Donc voilà, donc l'organisation c'est le lundi, on a une réunion importante où on dispatche un peu les reportages. Et après, dans la semaine, on a souvent 2 jours de repos, on a 1 ou 2 jours de repos dans la semaine puisqu'on travaille le week-end. Donc du coup, on va dire le lundi c'est réunion, le mardi, mercredi c'est repos. Et après, on prépare notre reportage et on part en reportage. Et puis le samedi ou le dimanche, on est en montage. Là, je te parle quand on est sur des reportages, on va dire Canal Football Club, J+1, les émissions hebdomadaires, quoi.
Et as-tu l'occasion du coup de côtoyer des journalistes sportifs comme Hervé Matou, Pierre Ménès, Olivier Talaron, voire Stéphane Guy? Et
Oui, bien sûr.
comment ils travaillent et comment sont-ils d'ailleurs en général?
Tous ceux que tu m'as cités, je les connais bien, ils sont souvent à la rédaction, ils sont assez connectés avec nous, puisque nous, on travaille en fait pour leurs émissions. Tu vois, Hervé Matou, par exemple, nous, on a un rôle important pour le Canal Football Club, vu qu'on fait, on va dire, un reportage par semaine pour son émission, et qu'on enrichit son émission. Donc c'est même un de nos chefs, tu vois, quand on travaille sur cette émission-là. Hervé, on a affaire à lui dans la semaine déjà, et pour parler du reportage en général, et le jour du montage aussi, il passe voir le reportage et il nous explique un peu ce qu'il en pense. Donc ça, il y a un vrai rapport avec lui. Stéphane Guy, qu'on connaît et qu'on croit souvent, lui, il est commentateur. On va parler avec lui comme un collègue, mais on va moins travailler avec lui, tu vois, directement. Talaron, il a une émission, il a son interview, là, comment ça s'appelle, Signé Talal, où là, c'est des gens du reportage qui vont le filmer, etc. Donc là, on a un rapport directement avec. Moi, j'ai fait l'Euro avec Olivier, donc on se connaît bien. Et voilà. Après, Pierre Ménès, c'est un peu particulier parce que lui, il intervient que sur le plateau du CFC et il travaille pas avec nous, on travaille pas avec lui directement. Mais voilà, donc oui, on côtoie des journalistes de renommée. Mais en général, ça se passe plutôt bien, ils sont assez simples, respectueux du travail qu'on fait, et comme ils savent qu'on fait un travail qui est plutôt respecté aussi, on a de bonnes relations avec eux, puis ils sont assez sympas, ouais.
Et pour ceux et celles qui veulent devenir journalistes sportifs, quels conseils leur donnerais-tu?
Un conseil simple, déjà, c'est de, avant de vouloir être journaliste sportif, se former à être journaliste tout court. Parce qu'on a souvent tendance à isoler un peu la pratique du journalisme sportif parce que c'est quelque chose de très spécifique et de très particulier. Il faut avoir, on va dire, une connaissance du sport et une passion du sport qui n'est pas forcément donnée à tout journaliste. Mais avant tout, si tu es un bon journaliste, je pense que tu seras un bon journaliste sportif. Et donc, un bon journaliste, c'est vraiment connaître les bases de comment est-ce qu'on récolte une information, comment est-ce qu'on la synthétise, comment est-ce qu'on la rend claire au grand public. Et ça, il faut s'entraîner à le faire sur tout, sur de la politique, sur l'actualité générale. Moi, je pense vraiment que le bon conseil, c'est ne pas s'enfermer que sur le sport et que sur sa spécialité. Parce que quand on est confronté à d'autres matières, entre guillemets, à d'autres spécialités, on a aussi d'autres problématiques qui nous viennent et qui, peut-être qu'un jour, nous arriveront aussi dans le sport et on ne sera pas préparé si on ne les a pas touchés ailleurs. Tu vois. Donc moi, je pense que c'est important avant tout de faire du journalisme, d'apprendre les bases du journalisme. Parce que le journalisme, c'est un socle commun et après, il y a des branches qui partent vers le sport, vers la politique et tout. Mais si on n'a pas levé les bonnes bases et le bon socle commun, on n'est pas forcément un journaliste très à l'aise, même si on est passionné de sport et spécialiste de sport. Donc moi, c'est ça, le gros conseil, c'est ça. C'est bien, bien... Et c'est être journaliste avant tout et ne pas s'enfermer tout de suite vers...
Donc on va rentrer dans le sport, le foot même. Pour Canal+, d'après toi, que représente le PSG et l'arrivée d'une star planétaire comme Neymar?
C'est une belle opportunité parce que Canal+, c'est le diffuseur historique de la Ligue 1. Et on est cette saison dans une saison qui a pris une dimension qu'on n'en a jamais eu en Ligue 1, dans le foot moderne. C'est-à-dire qu'on a un potentiel ballon d'or, l'un des 3 meilleurs joueurs du monde qui est là, dans une équipe qui est ultra ambitieuse et qui veut gagner la Ligue des Champions, ce qui n'est jamais arrivé dans l'ère très moderne du football. Donc pour Canal+, c'est une chance parce que, bien sûr, les audiences sont à la hausse. Le PSG, qu'on en tous les cas, c'est une équipe qui est très regardée. Donc c'est vraiment quelque chose de positif pour Canal+, pour tous les diffuseurs et même pour le foot en France, hein, de manière globale. Hein. C'est pas... Voilà, on va pas penser qu'à nous, mais c'est vrai que c'est accueilli positivement de la part de Canal+, forcément, quand quand tu as la chance de diffuser les matchs de stars mondiales comme celle du PSG et la chance de voir évoluer une telle équipe et de la mettre en avant et de la commenter et de faire des reportages dessus, c'est une super opportunité.
En parlant de l'équipe de Paris, est-ce que tu vois Paris cette année remporter la Champions League?
Sur le papier, ils ont clairement, selon moi, une équipe qui peut potentiellement gagner la Ligue des Champions dès cette année. Après, quand je dis sur le papier, c'est parce que, on va dire, c'est un peu une analyse naïve. Ils ont pour moi l'un des, on va dire, 4 ou 5e meilleurs effectifs d'Europe, même s'ils sont en dessous du Real ou en dessous peut-être d'autres équipes, parce qu'il leur manque un peu d'expérience, parce qu'ils n'ont jamais passé les quarts de finale depuis très longtemps. Après, la réalité de la Ligue des Champions, ça s'est souvent confirmé, c'est la manière dont on va gérer les matchs en jeu, la manière dont on va se sortir de situations difficiles et la manière dont le collectif, à un moment donné, va prendre le dessus sur les individuels. Et pour l'instant, je trouve que Paris ne l'a pas encore prouvé dans l'ère moderne du PSG, dans l'ère qatarie du PSG. Sur les matchs à qualification, on dirait qu'ils l'ont fait de manière épisodique, mais ils n'ont pas réussi pour l'instant à passer ce palier-là. Le palier où toutes ces individualités se mettent au service d'un collectif surpuissant. Et donc moi, j'ai un doute là-dessus. Encore pour l'instant de ce que j'en vois, quand je vois le match qu'ils font à Marseille, quand je vois certaines prestations en Ligue 1 et tout, je me dis, bon, ils peuvent le faire, mais voilà, on n'est pas sûr à 100% que ça va se passer tout de suite là. En tout cas, il faudra vraiment qu'en février ou en mars, ils passent un vrai palier et qu'ils aient deux vrais matchs de référence face à un géant européen où ils se qualifient. Et là, je pourrais dire, ah ouais, là, Paris, ils sont peut-être sur la bonne dynamique. En gros, il faut vraiment qu'ils passent l'hiver et qu'ils arrivent à l'hiver avec un collectif surpuissant, quoi. Parce que c'est dans ces matchs-là, c'est pas en Ligue 1 qu'on va faire la différence, c'est quand ils vont rejouer contre le Barça ou contre le Real ou machin, et c'est là qu'il faudra vraiment que les individualités se servent le collectif, quoi.
À t'entendre parler, est-ce que pour toi, football et journalisme sont synonymes? Qu'est-ce que ces deux activités représentent pour toi?
Pour moi, c'est deux passions, donc ça, c'est la chance que j'ai, c'est que je travaille avec deux de mes passions, le sport et le foot et le sport en général, et le journalisme aussi. Moi, j'ai toujours voulu faire du journalisme, en tout cas depuis que je suis assez jeune et que je sais un peu écrire, etc., etc. Et j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours regardé beaucoup. Donc les deux sont vraiment liés pour moi, et j'ai la chance de faire un métier qui est organisé autour de ces deux passions-là. Après, c'est vrai qu'il y a des similitudes aussi dans plein de choses, parce que le journalisme, en tout cas nous à Canal+, on va dire, on est un média qui est ambitieux, qui a quand même des moyens, où on fait de bonnes choses, et on a des médias qui sont concurrents, tu vois, comme dans le foot, t'as des équipes concurrentes, t'as d'autres journalistes qui sont très bons dans les autres chaînes, t'as une vraie concurrence en même. Ce que tu produis est regardé et critiqué par les téléspectateurs. Donc c'est vrai qu'il y a même des similitudes, même si c'est des similitudes lointaines, hein, mais il y a un certain rapport au public et tout qui se retrouve dans le sport aussi, c'est vrai.
Bon, c'est vrai, toi on te connaît principalement grâce à la réalisation de différents reportages, donc à Marseille, en Guadeloupe notamment. Parlons de Marseille, c'est vraiment une ville qui pue le foot, comme on dit?
Bon, après moi, je suis un peu moins objectif parce que je suis né à Marseille et que j'ai grandi, donc voilà. Après, justement, le fait d'avoir ensuite étudié en dehors de Marseille et d'avoir travaillé à Canal+ et d'aller voir ailleurs, parce que du coup, je suis allé en Europe, j'ai traité beaucoup de matchs en Europe quand on avait les droits européens, j'ai eu la chance de faire beaucoup de stades, beaucoup de championnats et tout. C'est vrai qu'en étant le plus objectif possible, Marseille est quand même, en Europe, une vraie ville de football. On peut le critiquer et ne pas aimer certains côtés que ça génère, parce que c'est une ville passionnée, mais c'est quand même une des rares villes en France où vraiment le football transpire, tout le monde est aspiré par le match du week-end, tout le monde va vivre avec passion le match du week-end, et voilà, et le temps s'arrête un peu autour de ces matchs-là. Et ça, on le retrouve dans certaines villes en France, hein. À Lens, à Saint-Étienne, voilà, il y a des villes de foot en France, mais à Marseille, c'est quand même très exacerbé. Puis en plus, il y a cette culture méditerranéenne qu'on retrouve dans cette ville qui en rajoute un peu, je pense. Donc ouais, c'est une vraie ville de foot quand même. Qu'on le veuille ou non, avec les critiques qu'on peut lui faire, moi je pense vraiment que c'est une place forte du foot, au niveau populaire en tout cas, en France. Voire en Europe, c'est une ville importante aussi du foot. Après, sur le terrain, c'est autre chose.
Très bien. Et le foot marseillais, d'après ce que tu as vu à Herbel, à Consola, par exemple, a réellement un très fort potentiel, ce foot-là?
Oui, bien sûr. Bah, le foot marseillais a un énorme potentiel parce que à Marseille, il y a un bassin de population très important. Il y a cette culture du foot dont je te parlais précédemment. Il y a une vraie, voilà, il y a une vraie filiation. Quand tu es jeune ici, tu grandis avec l'OM, avec tes parents qui regardent le foot, avec les gens qui vont au Vélodrome, donc tu es très vite plongé là-dedans. Et tu as aussi un tissu très populaire. Tu as beaucoup de zones, on va dire, industrialisées, de cités, etc., etc. Donc il y a un vrai rapport au football qui est important. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent. Il y a énormément de licenciés. C'est une des régions où il y a le plus de licenciés en France. C'est une des régions où ça joue vraiment au football. Et donc, du coup, il y a un vrai potentiel. Parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens qui jouent au foot. Après, tous les spécialistes du foot et tous les formateurs reconnaîtront qu'il y a un très bon niveau aussi au niveau amateur, ici. Parce qu'il y a des éducateurs compétents, parce qu'il y a une culture et il y a des clubs amateurs qui sont assez forts, voire puissants. Donc, il y a un vrai tissu et un vrai potentiel. Après, le vrai problème que moi, j'avais mis en valeur dans ma série l'an dernier et que tout le monde connaît ici, c'est que dans ce potentiel-là, on n'en tire pas le meilleur encore. Parce que l'OM a, pendant des années, eu du mal avec la formation, il y a eu des carences, et parce que souvent, ouais, ça a été un peu délaissé tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis dans d'autres clubs. Voilà. Le fait de ne pas avoir eu un tissu de formation fort sur la région marseillaise a fait qu'on n'a pas utilisé au maximum ce potentiel-là. Mais il y a un vrai bassin de talent. Mais comme il y en a à Paris, comme il y en a dans d'autres régions, hein, c'est pas... On va dire qu'il n'y a pas des génies ici et il n'y en a pas ailleurs. Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu quelques joueurs qui ont été ratés parce qu'à un moment donné, la région n'était pas maillée par les grands clubs pro comme il le fallait. Mais c'est en train de changer. J'ai l'impression que c'est en train de changer, qu'il y a une prise de conscience. Et bien sûr, c'est l'OM qui aura un rôle important là-dessus parce que c'est le club phare de la région. Et quand ils vont se remettre à ce qu'ils sont en train de faire, à redétecter les talents, à refaire monter les informations sur les joueurs talentueux et à mettre une pression sur les clubs locaux, bah, ça portera ses fruits dans 10 ans. Mais oui, il y a un vrai bassin de football, ça on ne peut pas l'enlever. Il y a du talent ici. De toute façon, il faut juste regarder les joueurs qui sont sortis. Hein. T'as Zidane, il vient d'ici, Nasri, Cantona, Tigana. Voilà, on peut faire une liste énorme, mais ce n'est pas un hasard. Il y a un tissu qui continue, comme en région parisienne.
Parlant d'un club plus local, c'est Marseille Consola. Mamadou Niang et Souleymane Diawara, ils ont repris en main le club, qui joue en national. Est-ce que leur projet est-il vraiment réalisable? C'est-à-dire, voir un OM Consola au Vélodrome, un jour, est-ce vraiment réalisable en Ligue 1?
Aujourd'hui, le vrai problème de Consola, qui n'est pas vraiment un problème, mais qui est un problème structurel, on va dire, c'est que c'est vraiment un club de quartier. C'est-à-dire, ils n'ont pas la puissance financière ni les structures pour grandir trop vite. Ils ont très peu de terrain d'entraînement, ils ont très peu de moyens financiers. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas payer des éducateurs très chers ou des joueurs très chers. Et ils ne peuvent pas non plus montrer, par exemple, un centre de formation. Ils n'ont pas de centre de formation. Ils ont des bonnes équipes en jeunes, mais ce n'est pas, par exemple, au niveau de l'Herbette. Ils ont un vrai problème là-dessus. Du coup, on va dire qu'ils mettent plus les moyens sur l'équipe senior. Mais ces moyens-là, ils sont limités. Du coup, ils font des mercatos intelligents. Ils se servent beaucoup, justement, des joueurs du bassin marseillais qui ont un peu de talent. Mais on va dire, moi, je pense que c'est un projet qui, pour l'instant, est encore limité parce que financièrement et structurellement, il leur manque pas mal de choses. Après, le fait qu'il y ait Mamadou Niang et Souleymane Diawara qui soient arrivés, c'est le moyen d'envoyer un message aussi pour dire, regardez, on se structure, on ramène des gens qui connaissent le très haut niveau. Et peut-être qu'à un moment donné, ces gens-là vont amener avec eux une dynamique positive qui nous permettra de monter. Mais ça fait 2 ans hein, déjà qu'ils ratent la montée de peu. Mm-hmm. Et c'est aussi peut-être lié au fait que derrière, ils ont peur de ne pas trop suivre financièrement, etc., etc. C'est un vrai club encore fragile économiquement. Hein, pour moi, c'est compliqué. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui être pro en étant aussi fragile économiquement. Donc à mon avis, eux-mêmes, ils connaissent leurs limites. Et même si Diawara et Mamadou Niang sont arrivés, ça ne leur permettra pas d'aller en Ligue 1. S'ils veulent vraiment aller en Ligue 1, il va falloir derrière qu'il y ait des investisseurs et qu'il y ait un projet plus solide financièrement. C'est peut-être ce qui arrivera. Hein. Mais sinon, pour moi, c'est un club qui est très important à Marseille, qui est amené à exister, mais qui est encore loin de la Ligue 1.
En parlant de Ligue 1, on a vu le classique en exclusivité sur Canal. L'OM, avec son projet actuel, pourra-t-il rivaliser chaque année avec le PSG dorénavant?
Sur un match, peut-être, comme on l'a vu ce week-end du classique là. Sur la saison, non, clairement. Là, sur le classique, on a vu une équipe de Marseille à 120% et une équipe de Paris à 80%. Donc forcément, ça s'équilibre et Marseille fait illusion. Après, je pense vraiment que le projet qui est mis en place, il monte petit à petit. Mais on voit, si on regarde l'ensemble des matchs de Marseille cette saison, Il y a des bons résultats, mais dans les intentions de jeu et sur la qualité de l'effectif, c'est quand même limité. Ils sont loin, loin du PSG qui a deux équipes. Paris aujourd'hui peut aligner deux équipes en Ligue 1 et faire peur à tout le monde. Marseille, dès qu'il leur manque trois joueurs, ça devient compliqué. Ils sont pas sûrs d'aller gagner sur toutes les pelouses de Ligue 1. Donc à l'heure actuelle, Marseille ne peut pas rivaliser avec Paris. C'est impossible. Et financièrement, il y a un tel écart qu'il va falloir qu'ils réfléchissent de manière intelligente pour combler un peu l'écart avec Paris. Mais économiquement, ils ne pourront jamais. Donc, il va falloir vraiment travailler sur la formation, sur des recrutements intelligents. Et voilà, pour essayer de faire un peu comme la France l'an dernier, aller chercher Paris sur son terrain et en étant intelligent. Mais pour l'instant, dans Marseille, il y a encore un ou deux paliers en tout, hein, largement.
On va attendre.
Bon, il faut attendre, hein. Il faut être patient avec Marseille. Hein.
Donc, parlons maintenant du football aux Antilles.
Ouais.
Quel portrait pourrais-tu dresser du football antillais? En étant objectif, ouais. Quels sont ses avantages et ses inconvénients?
En me basant vraiment sur ce que j'ai vu et étudié du football aux Antilles, ce que j'ai vu avant tout, c'est le football guadeloupéen, hein, qui est un peu spécifique, mais qui révèle quand même certaines choses. Moi, ce qui m'a le plus marqué, ce que j'avais relevé dans mon documentaire, c'est l'écart qu'il existe en termes de structure et de formation avec la métropole. Bien sûr, c'est lié à la distance et à plein de raisons, même historiques, mais ça m'avait vraiment marqué parce que, encore une fois, la Guadeloupe, mais je sais que c'est la même chose en Martinique, voire en Guyane, ce sont des vrais départements de football. Donc ça, c'est une des choses qui m'a vraiment marqué sur le football d'outre-mer, et que je trouvais un peu dommage, parce qu'il y a, voilà, pareil, il y a eu des très grands joueurs qui sont venus d'outre-mer. Ensuite, la deuxième chose qui m'avait marqué, c'est que c'est vraiment un département, mais je sais que c'est la même chose en Martinique et sur d'autres départements d'outre-mer, c'est vraiment des départements passionnés de football. Ça, c'est assez incroyable. Quand on voit des matchs où les stades sont pleins, où il y a un vrai engouement, où il y a une vraie reconnaissance, c'est-à-dire qu'une équipe d'une ville va être suivie par tout le monde dans cette ville-là, etc. Voilà, on a vu des terrains partout quand on était en reportage en Guadeloupe, et je sais qu'en Martinique c'est pareil. Il y a des terrains, il y a des joueurs partout. Enfin voilà, c'est vraiment des vrais territoires de football, et ça c'est super, ça c'est marquant, et ça donne envie d'aider ces zones-là à ne pas être oubliées, parce que vraiment, c'est fort, quoi. Les gens regardent le foot, les gens suivent le foot, regardent tous les championnats. Franchement, ça transpire le football aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, dernière chose, il y a quand même des points positifs, parce que quand on voit, par exemple, Thomas Lemar aujourd'hui, ça permet de revendiquer justement le fait que ce football-là, même s'il est un peu délaissé, etc., et c'est quand même un football où il y a du talent. Et quand on voit ce que ça donne au très haut niveau, ça donne envie de le suivre aussi et de se dire, bon voilà, il ne faut pas oublier ces zones-là parce qu'il y a des vrais footballeurs et il y a une vraie passion.
Et d'après ce que tu as vu en Guadeloupe notamment, as-tu ressenti une attitude combative chez ceux qui veulent faire avancer le football du pays?
Oui, très combatif. Il y a des gens qui ont vraiment des choses à dire. C'est très combatif chez les gens qui sont sur le terrain, qui sont connectés avec les joueurs, qui sont... Tous les week-ends et tous les jours aux entraînements, voilà, les éducateurs, les présidents de club, les directeurs sportifs, les joueurs. Là, il y a vraiment une attitude combative, une envie de montrer à la métropole qu'on existe, qu'il y a du talent, qu'il y a des bonnes choses, une envie de se développer au niveau local, d'avoir plus de sponsors, voilà, de faire vraiment un football un peu autonome, mais qui va avoir de la gueule. Et après, c'est vrai qu'au niveau des instances, c'est les instances tu vois, sur place, quoi. La Ligue, à l'époque, la Ligue de Guadeloupe, etc. Là, on le sentait un peu moins connecté au football local. C'est-à-dire, là, on avait moins ressenti cette combativité-là. C'était peut-être plus une acceptation ou des positions politiques, je sais pas. Mais là, ça bloquait un peu plus. C'était moins, on va dire, ça transpirait moins le foot et l'envie de combattre.
Et les présidents des ligues aux Antilles-Guyane se battent pour intégrer la FIFA, donc. Cela, ouais, te choquerait de voir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, par exemple, intégrer cette fédération?
Ça me choquerait pas, mais je trouverais ça dommage. Parce que, autant je suis totalement pour... plus d'autonomie dans le football amateur et dans le développement de leur football, parce que je pense que ça les renforcerait d'avoir des championnats locaux plus forts et plus puissants économiquement. Le fait qu'ils puissent jouer parfois, par exemple, le champion de Guadeloupe avec le champion de Martinique, etc., comme ça arrive parfois, même si c'est compliqué logistiquement. Par contre, de là à avoir en gros des sélections nationales qui intègrent la FIFA, je trouve que ça n'a pas de sens pour deux raisons. La première, c'est que ces équipes-là seraient quand même pas ridicules, mais elles auraient vraiment du mal sportivement. ça les servirait pas d'avoir une équipe de Guadeloupe ou une équipe de Martinique qui va avoir du mal à faire des résultats. Donc ça donnerait pas forcément une image, l'image la plus logique et la plus réelle de ce qui est vraiment le football là. Tu vois, si se prenait des tolls à tous les matchs alors que c'est un super football, ce serait dommage. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que historiquement, c'est quand même des territoires qui ont donné tellement de grands joueurs à l'équipe de France que ça serait une manière de ne pas reconnaître ça aussi. Enfin, ça serait une manière de... Moi, je trouve que ça serait un bond en arrière. Plutôt que de vouloir jouer et être indépendant au niveau de la FIFA avec ces équipes-là, je pense qu'il faut qu'ils continuent à se battre justement pour être reconnus et entendus par l'équipe nationale qui est l'équipe de France, quoi. Je pense que c'est vraiment... Le vrai combat, il est là, à mon avis. Plus que vouloir jouer sous son propre drapeau, parce que au fait, en finale, c'est accepter l'éloignement, accepter l'oubli, et voilà. Voilà, je le comprends, cette volonté-là de certains, mais pour moi, ça serait contre-productif. Ce goal-là, on serait plus mis de côté, je pense.
Bon, après, intégrer la FIFA, c'est surtout pour avoir un peu plus de moyens pour faire venir des joueurs professionnels qui ne sont pas appelés en équipe de France. C'est surtout ça l'objectif en fait. Après bon, toi tu as surtout parlé de l'aspect vraiment futuriste quoi, c'est-à-dire vraiment participer aux Coupes du Monde et tout, enfin finale de Coupe du Monde. Mais dans un premier temps, déjà ces ligues-là cherchent déjà à être reconnues comme membre à part entière en fait. C'est membre à part entière de la FIFA.
C'est aussi une manière d'être un peu combatif par rapport à l'oubli, on va dire, entre guillemets, hein, parce que c'est pas un oubli total, mais de la métropole. Mais je suis pas sûr que ce soit très constructif de le faire vraiment. C'est pour ça que je me projetais. Moi, je me disais, si ça se passait vraiment, parce que s'ils veulent y aller vraiment, c'est ce à quoi ils doivent penser, bah, ça serait pas forcément très emballant, ce football-là. Moi, je trouve, après, c'est vraiment un avis personnel, hein. Mais je trouve que ça serait plus intéressant vraiment qu'il y ait une vraie mise en valeur de ces footballs-là par la métropole, quitte à bien sûr aider et continuer à ce qu'il y ait des sélections comme il y en a et comme ça se passe toujours, mais tu vois que ça reste quelque chose de d'autonome mais pas de forcément indépendant, tu vois. Parce qu'après ça serait trop facile pour la métropole et pour la France, ça serait dire bon ben voilà, débrouillez-vous maintenant. Moi j'aurais peur qu'en fait ça soit une manière de les mettre un peu plus de côté, de les oublier plus facilement, en disant ben débrouillez-vous.
Ben merci beaucoup hein, pour cet éclairage. C'est une autre vision.
Bah, de rien, écoute, avec plaisir. Quand je peux, je regarde un peu ce que tu fais. Donc c'est bien, il faut continuer, hein, faut pas lâcher, c'est important.
Ouais, mais merci beaucoup.